Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndali Kabala.
RDC Ouganda, coopération sanitaire renforcée contre Ebola. En visite à Bunia, le ministre ougandais de la Santé annonce le déploiement d'experts, un appui logistique ainsi que la mise en place des centres de traitement dans les zones frontalières. Kinshasa appelle à la recherche sur les baleines. La ministre de l'Environnement encourage les jeunes à s'investir dans les études scientifiques alors que le pays manque d'experts et d'équipements pour gérer ces mammifères marins. RDC, nouveau naufrage meurtrier sur les Kasaï. Une vingtaine de morts et plus de 100 disparus. C'est le bilan provisoire livré le vendredi par les autorités locales. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier ont réagi à ces sujets. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. Face à la menace d'Ebola, la RDC et l'Ouganda resserrent leur coopération sanitaire. En visite à Bunia, le ministre ougandais de la Santé a annoncé le déploiement d'experts, un appui logistique et la création des centres de traitement dans les zones frontalières. Il appelle également la population à se rendre rapidement dans les structures de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Les précisions avec Jean-Claude Lokidile.
Selon le ministre ougandais de la Santé, cette coopération s'appuie sur un protocole d'accord conclu entre les deux pays. Une cinquantaine d'experts ougandais sont déjà déployés sur le terrain, notamment à Arou, où un centre de traitement est opérationnel. Un autre centre est en cours d'installation à Kasini, avec un appui logistique destiné à renforcer les capacités de la riposte congolaise. Dr. Christ Bariomunsi.
My appeal is to the people of Congo.
Mon appel s'adresse à la population congolaise. Ebola est une maladie très dangereuse. Plus la prise en charge est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. En Ouganda, nous avons enregistré 20 cas confirmés et seulement 2 décès. Cela montre qu'une prise en charge rapide permet de sauver des vies.
Le ministre ougandais précise par ailleurs que la réouverture complète des frontières dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. En attendant, les passages restent autorisés pour les camions de marchandises, les agents de santé, les humanitaires et les forces de sécurité. Il a enfin invité les médias à diffuser des informations fiables afin de lutter contre la désinformation et d'encourager les populations à respecter les mesures de prévention. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Restons dans la province de l'Ituri. Non à la propagation de fausses informations sur la maladie à virus Ebola dans l'ensemble de la chefferie de Baé Maboga en territoire d'Irumu, sous peine de poursuites judiciaires. C'est la mise en garde lancée lundi par le chef coutumier de cette entité lors de la parade hebdomadaire avec les leaders communautaires et différentes couches de la population. Objectif, obtenir l'implication de tous pour lutter efficacement contre la propagation de l'épidémie dans cette région frontalière avec l'Ouganda. Marcel Kizabiamongo.
Réunis devant le bureau administratif de la chefferie du Baïma Boga, de leaders communautaires et différentes couches de la population ont été sensibilisés à l'existence de la maladie à virus Ebola, ses modes de transmission ainsi qu'aux mesures barrières pour y faire face. Le chef de cette entité coutumière en a profité pour dénoncer, je cite, une campagne de désinformation sur l'épidémie d'Ebola véhiculée sur les réseaux sociaux ainsi que dans la communauté. John Kabarole Tibasima III a mis à garde les auteurs de ces messages qui, selon lui, sont nuisibles pour la santé humaine. Ils s'exposent à des poursuites judiciaires et répondront de leurs actes devant la justice, a déclaré le chef de Baïma Boga. Par la même occasion, l'autorité coutumière a également appelé la population et tous les acteurs concernés au respect des mesures barrières contre Ebola, maladie qui a déjà fait 506 morts dans la province, notamment dans les zones affectées par cette 17e épidémie. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Santé encore, les activités sont fortement perturbées dans plusieurs établissements publics de la province du Kwilu. Depuis ce mardi 7 juillet, les médecins ont entamé une grève à l'appel du syndicat national des médecins, le SINAMED. Selon le docteur Lionel Ngimba, secrétaire exécutif provincial, cette action vise à pousser le gouvernement à respecter les engagements pris dans le cahier des charges signé avec les médecins il y a 3 ans. Les grévistes réclament notamment l'amélioration de leurs conditions de travail et l'application effective des accords conclus avec les autorités. On écoute le docteur Lionel Ngimba, secrétaire exécutif provincial du SINAMED.
Le mouvement de grève a été déclenché depuis le 24 juin 2026, cette année, sur toute l'étendue du territoire national, bien sûr. Nous étions sous format polarisation des urgences. Au bout d'une semaine, une évaluation a été encore refaite au niveau de la base, et des bureaux provinciaux, ainsi que le bureau national a procédé à la compilation, une fois de plus, des avis et considérations issus des bureaux provinciaux, réservés une suite au mouvement de la grève qui avait débuté, voir dans quel format nous devons procéder. Et à l'instant où nous vous parlons, c'est depuis ce matin, aujourd'hui, ce mandat du 17 juillet à 7h30, que le mouvement de grève, ce mouvement de grève a été durci sous format de radicalisation, c'est-à-dire que hôpitaux sans médecins. Et le Kwilu étant géré aussi par le niveau national, avec tous les desiderata ainsi que les avis récoltés au niveau de la base, nous avons aussi emboîté le même pas que le bureau national. Nous sommes aujourd'hui dans notre phase de radicalisation, c'est-à-dire hôpitaux sans médecins.
Cette cessation de travail de médecins dans le Kwilu suscite de vives inquiétudes au sein de la population. Les malades dépendants des structures sanitaires publiques se retrouvent particulièrement fragilisés. Plusieurs observateurs redoutent déjà les conséquences de cette grève sur la prise en charge des patients, alors même que la province fait face à des cas de choléra dans la ville de Madundu. À Kinshasa, la ministre de l'Environnement, Marie Nyang Ndambo, encourage la jeunesse à s'investir dans des études scientifiques sur les baleines. Objectif, éviter de nouvelles pertes liées à la mauvaise gestion de ces mammifères marins. Lors d'un briefing de presse tenu ce mardi, aux côtés du ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya Katembwe, elle a reconnu que le pays ne compte que 2 experts spécialisés et ne dispose plus des kits nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate. Suivez les propos de Marie Nyang Ndambo.
La baleine, par nature, navigue et se perd. Il perd la boussole. Et donc, c'est des cas fréquents. Et lorsque la baleine perd la boussole et qu'elle se retrouve surtout dans des bancs de sable, il faut l'aider. Vous voyez vous-même la masse. Il faut les pousser encore, les remettre dans l'eau pour qu'ils puissent poursuivre son chemin. Et pour cela, il faut des équipements appropriés. Et je pense que avec cette première expérience, le pays pourra acquérir des équipements nécessaires pour que, si ces cas récidivaient, nous serons en mesure de prendre en charge la baleine. Et donc, on ne pouvait pas garder cet animal sans conséquences sur la santé humaine de communauté de Mwanda. Parce que déjà, aussitôt arrêté de respirer, on a commencé à sentir les odeurs.
La ministre de l'Environnement a en outre annoncé la création de l'Office national de l'eau destiné à améliorer la gestion de cette ressource naturelle et à contribuer au renflouement des caisses de l'État. Direction le Sud Kivu. La nouvelle dynamique de la société civile du territoire de Calais appelle les habitants du groupement Mbinga Nord à plus de responsabilités dans la gestion des étincelles en cette période de sécheresse. Un appel lancé alors que des cas de feu de brousse sont signalés dans la région. Benjamin Munganzi déplore que certains individus mal intentionnés mettent volontairement le feu dans des champs exposant ainsi les cultures des autres habitants. Les plus touchés par cette situation sont les cultivateurs de café, de quinquennat et de calpitus. Il est joint par Ronéline Tibonera.
Pour cette période de la sécheresse, la population ou les cultivateurs de plantes telles que les eucalyptus, les quinquennats et d'autres plantes, les apiculteurs dans le département de Mbinga, notre toit décalé dans la province du Sud, qui vous lancent un cri d'alarme du fait que les inciviques mal intentionnés sont en train de descendre leurs champs et dans lesquels il y a plusieurs choses telles que nous l'avions souligné si haut. La nouvelle société civile condamne fermement ces actes d'incendie par ces inciviques qui sont en train de commettre dans le groupement de Mbinga Nord en demandant l'implication des autorités compétentes civiles et de prendre une décision ferme sur ces inciviques, mais aussi en cas de force majeure, en cherchant même la provenance de l'incendie afin qu'il soit jugé par ses actes. Puisque quand nous brûlons l'environnement, nous mettons la vie de la population en danger, mais aussi il y aura plusieurs éboulements dans les avenir. Nous demandons à tout un chacun de bien protéger l'environnement et non plus par les faits, car ces herbes que nous brûlons aident les plantes à bien croître.
Cap sur Maniema, dans le territoire de Pangui, la société minière Kalima Mining Company vient de lancer deux projets destinés aux communautés affectées par ces activités. Il s'agit de la réhabilitation des 20 km de route des dessertes agricoles dans le groupement d'Oulimba, ainsi que d'un projet d'adduction d'eau potable prévoyant l'aménagement d'une source et la construction de 12 puits dans le groupement de Nsangé, Oulimba et Djoua. Pour les travaux routiers, la société a fait appel à la main-d'œuvre locale en recourant à l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Reportage signé Florence Kizalunga.
Le lancement des travaux de réhabilitation de cette route située dans le secteur de Béa suscite de l'espoir au sein de la population locale confrontée depuis plusieurs années à des difficultés d'évacuation des produits agricoles. Le président de la société civile locale, Mouniema Limulenda, souhaite que les travaux soient menés à leur terme.
Pour nous, l'impression est bonne, avec l'espoir que ce que nous venons de lancer aujourd'hui, les choses seront très bien faites. Ah, normalement, les routes étaient très mauvaises. La façon dont ils vont traverser ça avec la méthode IMO, ça va agrandir la route et ça va permettre même les petits engins de circuler, faciliter les transports des marchandises et des personnes qu'ils puissent faire un bon travail.
De son côté, le directeur du département de développement communautaire de Kalima Mining et Compagnie, Crispin Bolela, a insisté sur l'implication des communautés bénéficiaires afin d'assurer la pérennité des réalisations.
Nous avons demandé aujourd'hui aux autorités qu'ils fassent tout pour mettre les bouchées doubles sur la sensibilisation. Sensibiliser la population afin qu'ils s'approprient les acquis des projets.
Selon le responsable de la société, 8 des 11 projets prévus dans le cahier des charges sont en pleine exécution. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, la société civile tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce la dégradation avancée de la route Mwenda Kikingi, longue de 27 km dans le secteur de Rwenzori. Voie essentielle pour les échanges économiques et la sécurité locale, elle est aujourd'hui difficilement praticable. La nouvelle société civile congolaise appelle à la reprise urgente des travaux de réhabilitation. Meleki Mulala, son coordonnateur dans le secteur de Rwenzori, exprime son inquiétude au téléphone de Marc Marofimbo.
Sur le plan socio-économique, c'est une route d'abord d'une importance très capitale. Pour atteindre les Watalinga, nous de Rwenzori, il faut aller transiter par le secteur de Benimbau avec trop de risques comme ça. Et même ceux de Watalinga, il faut encore faire de la ville de Beni pour atteindre Mutuanga. Alors, nous sommes bloqués. Nos marchandises, soit nos produits, sont bloqués ici. On est obligé de les amener à Kasindi, alors que nous de Mutuanga et la population de Watalinga, on pouvait directement échanger des articles et puis ça facilite la vie. En tout cas, nous recommandons aux autorités de voir comment, dans l'urgence, continuer avec les travaux qui sont jusqu'à maintenant. Sa suite, parce que si on n'ouvre pas cette route, vous voyez, à Kikingi là-bas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller contourner à Kamango pour aller intervenir à Kikingi. Nous avons la police de Mutuanga qui contrôle Kikingi, mais pour qu'un détenu quitte Kikingi pour Mutuanga, donc il faut contourner. Sur le plan économique, c'est compliqué. Sur le plan social, c'est compliqué.
Face aux mutations profondes du marché de l'emploi et à l'émergence de nouvelles compétences liées au numérique, la qualité de la formation professionnelle demeure un enjeu majeur en RDC. C'est dans cette perspective que la direction d'appui à la formation de l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP, établissement public chargé de la formation et du perfectionnement de la main-d'œuvre, a organisé ce mardi 7 juillet une matinée de réflexion. Les échanges ont porté sur l'état des lieux de la formation continue, les défis auxquels sont confrontés les formateurs ainsi que les exigences imposées par les avancées technologiques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité.
Actualité internationale.
La réforme de la constitution sénégalaise adoptée le 29 juin dernier au terme d'une session houleuse viole-t-elle la constitution ? C'est la question que pose le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a saisi le Conseil constitutionnel lundi 6 juillet pour violation de la procédure de révision constitutionnelle.
L'invité.
Les naufrages continuent de frapper la RDC, endeuillant de nombreuses familles et soulevant des interrogations sur la sécurité des passagers. Le plus récent drame s'est produit dans la nuit de mercredi dernier à la jonction des rivières Kassai et Sankourou. Une vingtaine de morts et plus de 100 disparus, selon un bilan provisoire livré vendredi par les autorités locales. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congolais ont réagi à ce sujet. On les écoute au micro de Dona Madimba Mbaya.
Didier Mukoma, président national de la commission des transports à la Fédération des entreprises du Congo FEC, en sigle secteur des armateurs. À partir de cette émission de ce soir, qu'est-ce que vous pouvez proposer déjà à très court terme, c'est-à-dire demain ou après-demain, que aussi bien les autorités, les armateurs, c'est-à-dire les entrepreneurs propriétaires d'embarcations, mais aussi aux populations, de faire de mettre en place pour arrêter ces décès à répétition et parfois à des nombres très importants chaque jour sur les eaux de la RDC.
Le gouvernement a déjà mis les canons rapides. Ça ne sera pas tellement pour Kinshasa, c'est pour le fleuve Congo et tous ses affluents. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments qui va permettre les services de contrôle à faire leur travail convenablement, afin qu'ils ne puissent pas laisser les bateaux qui ne sont pas en état de navigabilité, ou soit qu'ils sont en tout cas, je puisse naviguer. À part cela, nous avons aussi les ports de gilets. Ça, c'est, nous devons encore beaucoup plus sensibiliser nos frères et sœurs qui prennent, parce que nous savons qu'il n'y a pas pour le moment des moyens pour que tout le monde puisse aller par avion ou bien par route vers, par exemple, dans des villages dans l'Équateur. Mais ce que nous demandons, le peu de moyens que nous avons de bateaux, que les gens aient cette conscience de porter les gilets, parce que ça fait partie de leur sécurité. Regardez, quand ils ont un accident, si quelqu'un a un gilet, il a au moins 90% de chances pour qu'il puisse survivre. Donc ça, c'est une deuxième chose que nous pouvons demander au niveau de la population. Et le plus vite possible aussi, c'est que le gouvernement puisse activer son projet de remplacer tous les bateaux en bois par les bateaux métalliques. Bon. Ça, c'est quelque chose qui pourra aussi nous servir, parce que si vous remarquez très bien, les bateaux qui font des accidents pour le moment, ce sont des genres de bateaux qui ne sont pas confortables. Voilà. Et des trois, c'est en tout cas le plus vite possible, c'est la numérisation de la navigation.
Merci à vous, Didier Mukoma. Pierre Sosten Kambidi, député provincial élu de Kazumba au Kasaï central. En attendant l'interpellation, que votre interpellation puisse donner des fruits auprès du gouvernement central et même auprès de vos collègues des provinces, quels conseils donneriez-vous aussi en tant qu'observateur, mais aussi en tant qu'acteur très actif et élu de la province, pour que cette situation de décès à répétition par un naufrage sur les eaux de la RDC s'arrête?
Oui, le seul conseil que je pourrais donner, c'est la prise de conscience générale. Autant tout à l'heure, j'ai évoqué la négligence générale, cette fois-ci, j'en appelle à une prise de conscience générale. Chaque maillon de la chaîne devait jouer sa partition. Le gouvernement de la République, ou bien les institutions de la République, tant au niveau national qu'au niveau provincial, devraient jouer leur part du système en veillant à l'application de la réglementation en la matière.
Donc. Merci à vous, Pierre Sosten Kambidi, Michel Moulongo, économiste des transports et spécialiste en transport multimodal. Pour des résolutions à court terme de ce problème, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que, par exemple, mettre de côté les embarcations pas en état de bien fonctionner, ça peut être la solution?
Il faut renforcer le contrôle des embarcations au départ, en remettant le commissaire fluvial dans ses prérogatives réglementaires. Je crois que c'est l'une des solutions. parce que c'est en quittant le port sans être contrôlé que ces embarcations vont commettre des accidents ou échouer. Il faudra peut-être autonomiser la direction de la marine et des voies maritimes, comme je l'ai dit. Et je voudrais revenir sur un fait, vous donner l'information que dans le cadre du projet PANAF dont j'ai parlé, ils ont eu à produire des nouvelles cartes de navigation numérique qui sont importantes. Et je pense que les armateurs sont au courant que ces cartes-là existent. Ils doivent s'en approprier.
Vous pouvez continuer à suivre notre magazine Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, coordonné et supervisé par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Claude Salamouana Kengonsoalo. Merci et à tout à l'heure.